Allô Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans Allô Radio Immo, votre émission, l'émission qui vous donne la parole, puisque chaque semaine, on reçoit toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Radio Immo, le Twitter de Radio Immo, l'Instagram aussi, le LinkedIn, voilà, on a tous les réseaux. On répond chaque semaine à vos questions avec des experts en immobilier, et cette semaine, j'ai la chance d'avoir sur avec moi, autour de ce plateau, deux experts, et pas n'importe lesquels. Tout d'abord, Antonio Pinto, CEO et cofondateur de Bellman, un néo-syndic. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Et à ma droite, Stanislas de Dinchin, CEO et cofondateur également de Haussmann Immobilier, une néo-agence immobilière. Bonjour.
Bonjour Bérénice, merci de nous recevoir.
Avec plaisir. Donc j'ai envie de dire, vous avez un point commun quand même. Tous deux, au final, deux néo-startups, des startups.
Ouais, avec presque le même nom en plus, Haussmann Bellman. On modernise la profession, chacun, je pense, en utilisant beaucoup la numérisation et les nouvelles technologies. Nous sur le syndic et Haussmann sur l'agence immobilière.
Et justement, on va en parler puisqu'on a regroupé donc là les questions d'auditeurs concernant la digitalisation, puisque on se pose de nombreuses questions, forcément. Alors certains connaissent, d'autres connaissent moins. Il y a aussi des professionnels qui s'y mettent, qui commencent, voilà. On va commencer tout de suite justement avec une question pour vous, Antonio, donc cofondateur de Bellman, néo-syndic. La digitalisation du syndic, comment ça fonctionne? C'est un auditeur qui nous demande, qui nous a envoyé ça. Est-ce que c'est possible?
C'est possible et c'est même nécessaire. Si on part un peu du besoin de ce qui est exprimé de la part des copropriétaires, en oubliant même la digitalisation, les gens aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est de leur syndic beaucoup plus de transparence. Il y a une grosse défiance vis-à-vis de la profession aujourd'hui.
Parce qu'en fait, parle beaucoup d'ailleurs. On en parle beaucoup. C'est très à la mode en ce moment.
La défiance, mais c'est lié au passé, aux différentes mauvaises pratiques. Et
du coup, c'est fondé, selon vous?
Forcément, j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un moment, clairement, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, qui se passent. Et pour pouvoir regagner la confiance des copropriétaires, il faut être capable de démontrer une transparence totale et de rassurer le copropriétaire en lui montrant absolument tout ce qui se passe du côté du syndic, que ça soit sur les comptes, que ça soit sur ce qui est réalisé par le gestionnaire de copropriété. Et là-dessus, la digitalisation, du coup, peut beaucoup aider.
Ça aide à être plus transparent.
Ça aide à être beaucoup plus transparent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à communiquer en temps réel les factures reçues, le moment où elles sont réglées. On va pouvoir montrer en temps réel ce que le gestionnaire est en train de faire pour la copropriété ou pour le copropriétaire. Tout ce qu'on voit un petit peu dans toutes les autres industries se passer. Chez Amazon, on sait en temps réel, des fois jusqu'à la minute, quand le colis est en train d'arriver à la maison.
On voit le livreur
arriver. On peut imaginer que ce genre de choses, du coup, arrivent sur l'immobilier et sur la copropriété, et du coup, sur l'agence immobilière.
Et alors, du coup, là, chez Bellman, tout est absolument en ligne. Parce qu'il y a certains syndics traditionnels qui s'y mettent, mais ils envoient les factures, ils commencent à mettre les factures en ligne, etc. Mais tout n'est pas en ligne. Là, vraiment, tout est en ligne.
Alors, tout ce qui est information est en ligne. Ça ne veut pas dire que Bellman est un syndic en ligne. Ça, je préfère le préciser parce que digitalisation ne veut pas dire qu'il faut qu'on perde l'humain. Ouais. Les gens veulent un bon conseiller, veulent quelqu'un qui se déplace sur la copropriété, qui connaisse l'immeuble, qui gère l'immeuble un peu en bon père de famille. Ce qu'apporte la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir communiquer l'intégralité des documents, des informations, des factures, les comptes, la trésorerie, la copro, etc. Tout ça, effectivement, c'est disponible sur le portail Bellman en temps réel et disponible à tous les copropriétaires de l'immeuble.
D'accord. Ok, donc ça, c'est pour les néo-syndics, donc les syndics en ligne. Une question pour vous, Stanislas, CEO de Haussmann Immobilier, la néo-agence. Justement, une question, qu'est-ce qu'une néo-agence immobilière? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est une auditrice qui demande ça, qui commence à s'intéresser. Voilà, elle recherche un appartement, apparemment. Elle commence à faire le tour des agences. Que vous lui répondez, du coup?
Alors, je pense que beaucoup de choses à y répondre, et notamment beaucoup de similitudes avec ce que tu viens de dire sur Bellman. Très concrètement, une néo-agence immobilière, c'est quoi? C'est une start-up qui a pour mission de réinventer la vente immobilière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est reparti d'une feuille blanche à l'aune du digital pour créer exactement le service qui correspond aux besoins du vendeur et de l'acheteur et donc potentiellement aux besoins de votre auditrice. Et donc pour Haussmann, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, première chose, qu'on a créé un service qui prend en charge 100% de la vente immobilière, le tout à un tarif fixe de 4 900 €, et avec une qualité de service et une expérience client qui se veut la plus exceptionnelle possible. Et donc ça veut dire beaucoup de disponibilité, ça veut dire être capable de vendre vite au juste prix, et ça veut dire, et je te rejoins beaucoup là-dessus, beaucoup de transparence. Et c'est probablement ce qu'apporte le digital en plus, c'est cette transparence et cette fluidité de la communication et des process qu'on peut avoir.
Et là, quand vous parlez de 4 900 €, donc c'est le tarif, c'est quoi exactement ce tarif plus spécifiquement?
Ce tarif est assez intéressant parce que c'est le tarif qui nous apparaît le plus juste et c'est comme ça qu'il s'est construit. Il faut savoir que dans l'univers traditionnel, les agents immobiliers facturent une commission, oui, c'est-à-dire un pourcentage de la vente immobilière. Exactement. Et qu'à Paris, en moyenne, la transaction est à 600 000 €. La commission moyenne est de 5%, donc ça veut dire 30 000 € au bas mot. Et ce que ça veut dire surtout, ça veut dire que vous gagnez plus d'argent si l'appartement vaut plus cher.
Bien sûr.
Chez Haussmann, on a fait un constat qui est assez différent. C'est-à-dire que si vous y pensez bien, vendre 40 ou 80 mètres carrés, c'est exactement la même quantité de travail. Et donc, on trouvait beaucoup plus juste de pratiquer un tarif fixe. 4 900 €, quelle que soit la taille de votre appartement,
donc,
quel que soit le prix.
Aussi bien un 150 mètres carrés haussmannien dans le 16e qu'un petit studio, dans le 19e. Peu importe la localisation aussi.
Exactement, pour rémunérer le travail qui est réellement fourni et pas la valeur d'un appartement qui est décorrélée du travail à fournir.
Et alors, là, cette auditrice s'interroge sur les agences, elle fait le tour. Quels sont les avantages par rapport à une autre agence? L'acheteur a y gagné, par exemple?
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne question et si on ne regarde pas vraiment ce que font les autres agences immobilières. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment Haussmann peut créer le service qui répond parfaitement aux besoins du vendeur et de l'acheteur. Et là-dessus, je peux vous dire que votre auditrice sera servie parce qu'elle aura un service d'une qualité exceptionnelle qui va lui permettre de vendre très rapidement son appartement au juste prix et le tout avec une qualité de service qui est exceptionnelle. Et ça pour 4 900 €.
D'accord. Donc, c'est des prix compétitifs. Antonio, on a une question. Quel bouleversement des pratiques liées à la crise? Quels sont les bouleversements des pratiques dans l'immobilier liés à la crise?
Oui, on nous a beaucoup posé cette question. Alors, je ne parlerai pas de bouleversement. Concrètement, il y a une accélération de la digitalisation.
Suite au confinement, aux différents confinements?
Oui, parce que quelque part... On a été un peu obligé de tester des deux côtés. Autant côté copropriétaire que côté gestionnaire de copropriété, on a été obligé de faire des AG en visio parce qu'on ne pouvait pas se regrouper dans une salle. On a été obligé de faire des réunions de conseils syndicaux en visio.
D'ailleurs, il y a eu quelques soucis parfois.
Alors forcément, quand la 4G ne marche pas ou que le Wi-Fi ne marche pas, enfin forcément, il y a des soucis par-ci, par-là. Mais globalement, je dirais que les copropriétaires et les conseils syndicaux se sont rendus compte que ça pouvait marcher comme ça.
Et il y a eu un meilleur taux de participation?
Je dirais que c'est à peu près le même. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et donc, globalement, les gens sont un peu plus ouverts au digital. Mais le digital, globalement, c'est des AG qui sont dématérialisés, des votes qui sont faits par correspondance. Après, le métier n'a pas changé, c'est-à-dire que le plombier, il n'intervient pas par Internet.
Oui.
Quoi. Donc, il n'y a pas un bouleversement du métier, il y a une ouverture à la digitalisation. Et si Bellman aujourd'hui connaît le succès qu'on connaît, c'est pas tellement suite au bouleversement ou au Covid, etc. Je dirais que c'est plutôt parce qu'on répond vraiment à un besoin qui est un besoin de transparence et de réactivité.
D'accord. On en parlera après. Il y a d'autres questions, mais là, vous continuez toujours à aller là-dedans dans les AG en.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un format qui plaît. C'est-à-dire que à nous de concrètement de voir un peu le meilleur format en fonction de la copropriété. Mais pour les tout petits immeubles quand il n'y a pas beaucoup de monde, finalement, tout le monde s'y retrouve. On peut même participer à son assemblée générale depuis ses bureaux. C'est-à-dire que quand l'AG elle est à 19h, j'ai pas le temps de rentrer chez moi ou d'aller dans le lieu du bureau du syndic ou ailleurs. Et donc, du coup, je vais pouvoir y participer depuis mes bureaux. Donc, il y a un truc qui arrange un petit peu tout le monde.
Ouais.
Pas forcément pour les copros qui ont 200 appartements, parce que alors là, c'est encore un peu galère de pouvoir organiser ça correctement. Mais je dirais que moi, mes attentes par rapport à la suite, je pense qu'on va rester sur un mode où il y a des copros qui le font en visio, d'autres qui le font en physique. La visio, ce que ça a nécessité, c'est quand même de s'organiser un petit peu autrement, avec des réunions en amont de l'Assemblée Générale pour pouvoir organiser les débats, pour pouvoir, notamment pardon, pour le vote par correspondance, où la plupart des gens se disaient « mais du coup, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir débattre pour pouvoir voter en connaissance de cause ?» Et donc là, voilà, il y a des petits ajustements à faire, mais ce n'est pas un bouleversement de la profession.
D'accord. Stanislas, une question sur les agences en ligne. C'est un auditeur qui demande, quand on fait appel à une agence en ligne pour vendre son appartement, du coup, est-ce que tout se passe en ligne, comme ce n'est pas une agence physique, comment ça se passe ?
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et qui est très importante. Et je rejoins du coup Antonio sur la vision de Bellman. Haussmann a une vision qui est tout à fait la même. En ce sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, notre idée, c'est de créer le service qui répond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et il se trouve que sur l'immobilier, on a encore besoin d'humains. Donc il ne s'agit pas de digitaliser le secteur pour le digitaliser, mais juste d'utiliser le digital quand ça crée de la valeur et de garder l'humain quand ça crée de la valeur. Et donc chez Haussmann, on a l'habitude de dire qu'on fait le meilleur du digital et de l'humain. Donc concrètement, on a automatisé et digitalisé toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Là où c'est un apport
comme quoi,
de digitaliser, et bien par exemple la diffusion des annonces ou la signature d'un mandat ou le fait de réserver. Alors c'est quelque chose qui paraît peut-être tout bête, hein, sur booking.com, vous allez sur booking.com et vous avez directement des créneaux pour pouvoir réserver votre hôtel. Ça n'existait pas dans l'agence immobilière, on a été le premier à le faire. Donc si vous voulez prendre rendez-vous chez Haussmann pour visiter un appartement, les créneaux sont directement en ligne, pas besoin d'appeler un agent immobilier.
D'accord, donc on peut sans appeler directement prendre rendez-vous pour une visite.
Exactement, sachant que vous avez une visite virtuelle qui au préalable vous a permis de prévisiter l'appartement, oui. Et donc tout le monde y gagne parce que tout le monde gagne du temps et que vous êtes certain en tant qu'acheteur de ne pas perdre de temps à aller vous déplacer dans un appartement alors qu'il ne vous correspond pas du tout.
Et ça, les visites virtuelles, ça marche beaucoup? Est-ce que systématiquement les gens, avant de réserver une visite, font une visite virtuelle ou c'est qu'un pourcentage?
Alors, tout le monde le fait, je pense, de manière générale. On n'a pas de moyen de le traquer spécifiquement, mais c'est nécessairement une vraie plus-value parce qu'encore une fois, ça vous permet d'éviter de vous déplacer pour rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a ses limites et qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à acheter un appartement sur la base d'une visite virtuelle. Il y a trop d'affect. Vous avez besoin de vous déplacer physiquement, de voir l'appartement physiquement.
De voir les parties communes aussi, j'imagine.
De voir les parties communes, de voir l'ensoleillement, de voir un certain nombre de choses que la vidéo nécessairement reflètera très mal. Et donc si je reviens à ce digital et à cet humain, on a gardé beaucoup d'humains et on a gardé notamment de l'humain sur trois principales étapes. La première, c'est l'estimation. Personne aujourd'hui n'est capable de faire une estimation qui soit juste, à distance. Vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de l'œil de l'expert. La deuxième chose, on en parlait à l'instant, c'est la visite physique de la part des acheteurs. Vous avez besoin de vous déplacer pour visiter l'appartement physiquement. Et la troisième chose qui intervient tout au long de votre projet de vente ou d'achat, c'est le conseil. C'est encore un métier où vous avez besoin de conseils, où vous avez besoin d'être épaulé par un expert.
Plus que jamais, j'ai envie de dire.
Plus que jamais, qui est disponible. Et c'est ça tout le paradoxe du digital et ce qu'on essaie de créer, c'est que parce qu'on a digitalisé tout ce qui ne crée pas de valeur à être fait par un être humain, on offre plus de disponibilité à notre client. Et donc nos experts sont beaucoup plus disponibles pour ce qui crée de la valeur, à savoir le conseil.
Donc moins de contacts, mais des contacts de meilleure qualité en fait.
Exactement.
D'accord, ok. Du coup, ça rassure, j'imagine, les vendeurs et acheteurs qui ont besoin quand même d'avoir les personnes.
Alors, c'est un point effectivement qui est très intéressant. On le sait et je pense que ça peut être la même chose du côté des syndics, peut-être encore plus dans la transaction immobilière. C'est un contexte qui est extrêmement anxiogène. Entre l'enjeu émotionnel ou la charge émotionnelle qui existe, parce qu'en général, quand vous vendez un appartement, c'est que vous avez un événement de vie. Vous vous mariez, vous déménagez parce que vous avez un nouveau job, avez un nouvel enfant, vous divorcez peut-être. Donc il y a un contexte émotionnel qui est fort et à côté de ça, un enjeu financier qui est gigantesque. L'appartement et le bien immobilier
c'est stressant,
en tout cas. Et probablement l'achat le plus important que vous puissiez faire. Et donc entre ce contexte émotionnel très fort et cette charge financière gigantesque, vous avez une charge anxiogène qui est forte, très forte.
Et Stanislas et Antonio, les deux, donc que ce soit pour un néo-syndic ou une néo-agence, si la personne veut vous rencontrer, a besoin de faire un entretien avec vous, c'est possible ou pas?
Alors, un entretien avec moi, personnellement...
Oui, avec un gestionnaire de copropriété.
Alors, chez nous, ils rencontreront régulièrement leur gestionnaire
de copropriété. Mais si, la personne, un jour en particulier, se dit, moi, j'ai besoin... parce que parfois, on a besoin d'être rassuré, de voir la personne. C'est possible, on peut...
Oui, tout à fait.
À tout moment...
C'est ce que disait Stanislas, c'est-à-dire que grâce à la digitalisation, les gestionnaires sont plus disponibles. Parce qu'en fait, on leur enlève toutes ces tâches chronophages qui honnêtement, ont zéro valeur ajoutée pour le copropriétaire. Et Et du coup, ils peuvent prendre ces rendez-vous, ils peuvent faire ces passages de visite sur la copropriété. Et l'idée, à la fin, c'est de remettre l'humain dans le métier.
Exactement. Et alors, réponse pareil, très similaire côté Haussmann. D'une part, l'ensemble de nos clients rencontrent nos experts, puisqu'ils les rencontrent lors d'une estimation à domicile. Et donc, c'est le moment pour l'expert de créer du lien avec le vendeur. Et d'autre part, évidemment, on a une disponibilité qui est accrue derrière si à tout moment, le vendeur a besoin de parler à son expert. Et je pense que le plus important à retenir de tout ça, c'est que effectivement, le but, et paradoxalement, malgré le fait qu'on parle beaucoup de digital, c'était justement de remettre l'humain au cœur de tout ça. Mais l'humain, là où ça crée vraiment de la valeur. Et pas à des endroits qui peuvent être optimisés par ailleurs grâce au digital.
D'accord. Une autre question, Antonio, un auditeur qui demande un syndic de copropriété est-il forcément plus fiable quand c'est une grande enseigne? Sur Instagram, on a eu cette question. Est-ce que grande enseigne est synonyme de fiabilité?
Alors moi je suis un peu biaisé, je dirais que pas forcément. Disons qu'une grande ancienne, souvent ce qu'on, les a priori, c'est se dire c'est solide financièrement, c'est là pour durer, etc. Mais une grande enseigne, finalement, c'est des êtres humains à l'intérieur qui travaillent tous les jours avec... avec des outils et avec des processus qui sont définis par le groupe. Et le fait est qu'aujourd'hui, chez les quatre leaders du marché, quand on questionne les gestionnaires de copropriété, ils se plaignent des processus qu'il y a en interne, ils se plaignent du manque de moyens, ils se plaignent des problèmes de management, des problèmes de culture et des problèmes d'outils. Ouais. Donc, oui, financièrement parlant, peut-être qu'elles sont solides, mais le problème, c'est que la plupart des gestionnaires de copropriété se plaignent d'un manque de moyens et de pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire correctement leur métier. Et donc c'est pour ça que, alors inversement, du coup, on pourrait se dire, mais donc du coup, il faut aller dans les petites agences. Là, de la même manière, les petites agences, souvent, n'ont pas les moyens pour investir autant sur de l'innovation technologique et pour pouvoir vraiment retravailler le modèle en profondeur.
Mmh. Stanislas, vous confirmez les propos d'Antonio? Je vais faire oui.
Oui, alors évidemment pas avec l'œil d'un expert, ouais. Mais par contre avec l'expérience que je peux avoir en tant que propriétaire et l'expérience que je peux avoir des syndics.
Ah oui, alors quelle expérience?
Alors, une expérience qui est assez mitigée, même si encore une fois, l'idée c'est pas forcément de jeter le discrédit sur la profession, mais c'est vrai que en termes d'efficacité et en termes de réactivité, je vois tout à fait ce que peut apporter le digital et ce que peut, au-delà du digital, apporter la conception qu'ont les startups du service à ce secteur-là. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que les startups, c'est pas uniquement du digital. C'est une vision des process et une vision du service client qui est assez particulière. C'est-à-dire que dis-moi si je me trompe pour votre vision de votre côté, Antonio. Mais en tout cas, chez Haussmann, l'objectif n'est pas comment Haussmann peut gagner de l'argent. C'est comment on peut rendre service au vendeur comme à l'acheteur. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'un jour, on gagnera de l'argent. Et donc, ça change complètement la logique, puisque toutes les énergies sont tournées en permanence sur comment on rend service, comment on résout le besoin de telle ou telle personne, plutôt que tourner vers soi-même, à savoir comment moi, je gagne de l'argent. Ça n'a rien à voir comme logique.
Est-ce que vous pensez tous les deux que le fait que ce soit des startups, c'est plus petit, du coup plus agile, forcément ça aide dans le service?
Alors ça aide effectivement dans un temps 1. Maintenant la réalité c'est que tout le challenge, Bellman comme Haussmann sont des startups qui marchent très bien, qui cartonnent, qui sont amenées à grossir et à devenir demain des très grosses boîtes. Mais je pense qu'on se sent très armé pour être en mesure de maintenir une qualité de service, y compris quand on sera beaucoup plus gros.
D'accord.
Peut-être pour rebondir là-dessus, le gros avantage, c'est ce qu'a dit Stanislas tout à l'heure, c'est qu'on a la chance de pouvoir partir d'une page blanche. Quand on est numéro un en France avec 9000 employés, c'est plus compliqué de dire demain, à partir de demain, vous allez fonctionner complètement différemment.
Bien sûr.
Et en plus, du coup, il y a certains postes qui, a priori, sont amenés à disparaître parce qu'en fait, ils sont remplacés par le digital.
C'est le gros souci des grosses entreprises en ce moment.
Ouais. Exactement. On n'a absolument pas ce souci lorsqu'on peut démarrer d'une page blanche. On est capable, du coup, de... On a zéro contrainte. On pense que la bonne solution, c'est de faire comme ça. Ben, on le fait
on
comme ça.
On réajuste tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer par 3-4 services. Alors, une autre question pour vous, Stanislas. Est-ce que vous prenez en charge les visites ? Donc oui, vous le disiez, alors, on réserve. Mais alors, comment ça se passe ? Est-ce que, du coup, il y a un agent qui se déplace ? La personne fait la... il faut les clés, de toute façon.
Exactement. Alors, ça marche, pour le coup, de manière assez traditionnelle. Là, il n'y a pas grand-chose à réinventer. Vous avez besoin de visiter physiquement un appartement. Ce qui change, par contre, c'est l'expérience. À savoir que l'acheteur ne va pas avoir besoin d'appeler l'agent immobilier pour prendre visite. Il va juste voir l'annonce et voir directement les créneaux qui sont disponibles pour faire sa visite. Donc il réserve 100% en ligne. Derrière, il sera rappelé par le SMS qui va bien quelques heures avant sa visite.
Donc il y a un SMS de confirmation qui rappelle de rappel plutôt.
Exactement, qui va vous rappeler où est l'appartement, à quelle heure vous le visitez, etc. Vous serez accueilli en temps et en heure par la personne qui vous fait visiter l'appartement. D'accord. Et juste après votre visite, vous recevrez de manière automatique tous les documents complémentaires. Donc ça, c'est très classique. Vous visitez un appartement, vous avez besoin derrière de savoir quels sont les coûts de la copropriété, quels sont les PV d'AG, etc. Mm-hmm. Tous ces documents ont bien évidemment été préparés en avance et vous les recevez automatiquement à la sortie de votre annonce, à la sortie de votre visite. Pardon.
D'accord. Donc on reçoit, on a rien à demander, tout est prévu.
Et côté vendeur, lui sera en temps réel qui visite et comment s'est déroulée la visite. Et donc dans les 3 heures après la visite, il recevra via email et via SMS un compte rendu de sa visite qui lui dit est-ce que l'acheteur a été intéressé ou non et pourquoi.
Même à Paris, lorsqu'il y a énormément de visites, du coup l'acheteur reçoit des comptes rendus pour toutes les visites.
Exactement. Quoi qu'il arrive, vous avez un SLA très strict chez nous, donc un standard level agreement de 3 heures. Et quoi qu'il arrive, en tant que propriétaire, 3 heures après que la visite ait été effectuée, vous recevez un compte rendu.
D'accord, très bien. Antonio, un message. Alors là, c'est un professionnel. Je suis syndic de copropriété, mais j'hésite à continuer. Est-ce que ce métier a de l'avenir ? Grande remise en question là après les confinements, peut-être. Justement, l'avenir de ce métier, alors ?
Ouais, c'est une question qui est pas très étonnante. C'est un marché qui est assez bizarre parce que d'un côté, on a 50% des gens qui sont dans ce milieu qui sont issus d'une reconversion professionnelle. Donc en fait, c'est des gens qui découvrent une passion pour ce métier et qui deviennent gestionnaires de copropriété.
Et ils faisaient quoi avant, en général, et ces personnes ?
Un peu tout. Il y en a qui étaient avocats, il y en a qui étaient notaires, il y en a qui faisaient des missions, de la gestion administrative. Enfin, ouais. Il y a un peu de tout. Il y en a qui sont sortis d'école aussi, évidemment, hein, mais ça, c'était un chiffre qui était donné par l'ANGC, qui était intéressant, c'est que 50% des gens, des gestionnaires, sont issus d'une reconversion professionnelle. Et de l'autre côté...
Oui, parce que, juste, je me permets, on dit en ce moment dans la presse qu'on a du mal à recruter de jeunes gestionnaires, que ça donne plus envie à ceux qui sont en train de faire leurs études dans l'immobilier, ouais. Que c'est un métier qui n'attire plus les jeunes. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, tout à fait. En fait, le symptôme de ça, c'est que de l'autre côté, on a à peu près 29% de turnover dans les syndics traditionnels. Donc d'un côté, on a l'impression qu'il y a un engouement au début, quand on est à l'école ou quand on découvre un petit peu ce métier, on aime ça, parce qu'en fait, la mission, elle est quand même noble. Hein. La mission, c'est une mission de maintenir et améliorer le patrimoine résidentiel de France. S'il n'y a pas des professionnels qui s'occupent de ça, qui va le faire quoi. Ça demande quand même une certaine expertise, ça demande du temps, ça demande d'être un couteau suisse. Donc, pour moi, le métier, il est nécessaire et il est là pour la durée. Le problème, c'est que le métier tel qu'il existe aujourd'hui chez les syndics traditionnels, c'est absolument pas ça. Le métier dans un syndic traditionnel, c'est je fais des photocopies, je fais des coups de tampon, je me prends des claques à longueur de journée de copropriétaires mécontents parce qu'en fait, on m'a demandé de surfacturer des trucs ou parce que j'ai absolument pas eu le temps de faire le nécessaire. Donc évidemment que j'ai pas envie de faire ce métier tel quel. Et chez Bellman, l'idée, c'est qu'on repermette aux gens de faire le métier tel qu'il est censé être. C'est-à-dire que j'accompagne des copropriétaires sur des sujets à forte valeur ajoutée. Je les aide à améliorer et à maintenir correctement leur immobilier. Et maintenir correctement, ça veut dire quoi ? C'est potentiellement, je fais baisser les coûts de tout ce qui concerne le chauffage. Je fais baisser le prix de l'assurance. Donc, je gagne vraiment de l'argent. Je propose en plus des idées d'amélioration qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie dans la copro. Mais c'est pas... Je fais 80-90% d'administratif et je m'en sors plus dans mon quotidien et je suis obligé de travailler le soir et les week-ends et je me prends des coups de baffe par mes copropriétaires. Ça, évidemment, que personne n'a envie de le faire.
Et chez Bellman, vous recrutez du coup en ce moment ?
On n'arrête pas.
Ouais.
on n'arrête pas. On est passé de 15 personnes à 50 personnes en 8 mois.
D'accord.
Et on recrute continuellement des gestionnaires de copropriété parce que l'idée chez nous, c'est évidemment qu'ils aient un nombre d'immeubles gérables. Donc chez nous, en moyenne, ils ont quelque chose comme 25 immeubles. Au maximum, ils auront à peu près 40 immeubles. Mais ça, c'est à partir de la deuxième année. La première année, au maximum, ils ont 30 immeubles pour qu'ils puissent y arriver.
Ouais.
Et donc, on recrute des gestionnaires de copropriété, depuis le junior jusqu'à 10 ans d'expérience, voire un peu plus.
D'accord, donc tous les profils.
Tous les profils, des comptables, des développeurs informatiques également. Notre particularité, c'est qu'on a un quart de notre équipe qui sont des ingénieurs informatiques.
Bah vous étiez...
Je suis un ingénieur informatique, exactement.
À la base, oui, d'accord. Donc forcément, ok. Justement, Stanislas, on parle de recrutement. On avait une question aussi d'un agent immobilier qui s'apprêtait à changer d'agence, peut-être s'orienter vers une agence digitale. Vous recrutez également. Et qu'est-ce qu'un agent immobilier a gagné à travailler dans une start-up, une agence digitale ?
Ouais. Alors effectivement, on recrute et on recrute beaucoup puisqu'on a l'ambition de recruter une centaine de personnes dans les 18 prochains mois. Et tout cela grâce à une levée de fonds qu'on vient d'annoncer il y a à peu près un mois.
Ouais.
Levée de fonds de 6 millions d'euros. Merci beaucoup.
Ouais.
Écoutez, merci beaucoup. On en est très fiers parce que ça vient vraiment parachever le travail assez acharné de la part des équipes d'Haussmann depuis plus de 3 ans. Et puis c'est un véritable tremplin pour l'avenir parce que ça va nous permettre de recruter des gens qui vont nous aider à continuer à innover et à révolutionner l'immobilier. Et puis ça va nous permettre d'apporter le service d'Haussmann au plus grand nombre. Et donc l'idée est d'aller ouvrir les 10 à 15 plus grandes villes françaises dans les 18 prochains mois. Mais pour revenir à votre question sur le recrutement, il y a un élément assez particulier à savoir qu'il y a un élément de vision qu'a Haussmann. C'est que la mission d'Haussmann est de changer ce secteur de la transaction immobilière. Et donc on a pensé qu'il serait intelligent de, pour bien changer ce secteur, également changer l'humain. Alors ça ne veut pas dire que les agents immobiliers font mal leur travail, ça veut juste dire qu'on a une vision extrêmement différente de la manière de faire ce travail. Et donc jusqu'à présent, on n'a jamais recruté d'agents immobiliers. On a préféré recruter des personnes qui ont un sens du service client extrêmement fort et à qui on apprend l'immobilier derrière.
D'accord.
C'est un élément, un choix stratégique et un vrai élément de vision qui nous paraissait important pour arriver à vraiment transformer en profondeur ce secteur. Tu parlais, Antonio, tout à l'heure de la difficulté de changer l'humain. Ça, c'est la réponse qu'a apporté Haussmann pour améliorer les choses.
D'accord. Antonio, comment choisir un bon syndic ? C'est un copropriétaire qui demande ça.
Alors, comment choisir un bon syndic ? Moi, pareil, hein, c'est assez difficile de donner une réponse assez généraliste à ça, mais personnellement, moi, je l'ai construit Bellman tel que... Pour moi, Bellman, c'est le syndic parfait.
Parce que vous, j'imagine que vous aviez...
Je l'ai construit pour moi.
Ouais, vous avez eu un problème de syndic, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, alors exactement. L'anecdote, hein, c'est que j'ai eu le même problème que la plupart des gens. Hein. C'est mon ascenseur est en panne, j'envoie un email et j'attends 5 jours pour que la personne me demande « Bonjour, c'est pour quelle adresse ?» sachant que je lui avais envoyé le jour de mon arrivée, mon adresse mail, etc. etc. quoi.
Donc pendant 6 jours, 6 étages avec les courses, c'est alors, ça ?
J'habite au 3e, donc tout va bien quand même. Mais ça, c'est une anecdote. Et des trucs comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que j'étais pas un expert du métier et quand on m'envoie une convocation et qu'on me dit vérifie les comptes avec le bilan comptable ci-dessous,
ouais.
Enfin, c'est pas possible, j'y comprenais rien. Et donc, l'idée, pour moi, un bon syndic, c'est un syndic qui va faciliter l'accès à la formation.
Ouais. C'est la première chose déjà.
Montrer patte blanche sur tous les sujets, sur l'avancement des sujets de la copro, sur les comptes de la copro. Que je comprenne à quoi servent les 650 euros que je paye tous les trimestres.
Bien sûr.
Et qui, derrière, va dérouler sur les sujets de la copropriété. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un sujet voté en Assemblée Générale, on sent qu'en fait, il fait le nécessaire. Alors, on sait qu'il est dépendant de plein d'autres prestataires, etc. Mais en tout cas, il démontre qu'il a fait le nécessaire et qu'il n'est pas juste en train d'encaisser ses honoraires sans faire avancer. Donc, là-dessus, pour moi, la base de base, c'est choisir un syndic de copropriété qui va correctement communiquer sur ce qu'il fait et qui va rendre facile l'accès à l'information. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, ce que j'évaluerais, c'est qu'est-ce qui est mis en place chez ce syndic pour permettre à ces gestionnaires de copropriété d'y arriver.
D'accord.
Parce que c'est trop facile de dire juste, oui, il va être extrêmement réactif, vous inquiétez pas, il va faire tout
oui,
le nécessaire.
Oui, c'est facile à dire,
mais qu'est-ce que vous avez
derrière.
Mis en place, quoi.
Une dernière question pour vous, Stanislas. Une auditrice, j'ai l'impression que les prix stagnent et que c'est plus dur de vendre rapidement. Est-ce que c'est mieux d'essayer de vendre tout seul d'abord, par exemple, hein, sur Le Bon Coin, ou de faire appel à une agence classique ou une néo-agence ?
Alors, effectivement, on a pu constater un ralentissement de la hausse des prix, voire même une baisse des prix à certains endroits. Et quoi qu'il arrive, la tension immobilière n'est plus ce qu'on a connu avant la période de confinement. Même si on espère qu'il y aura une embellie dans le futur, pour l'instant, il est vrai que ça peut être un petit peu plus difficile. Pour répondre directement à la question de est-ce qu'il est bien de vendre en particulier à particulier, donc en PAP, oui, c'est une solution. Mais il faut savoir que seulement 10 à 30% des Français qui essayent le PAP, le particulier à particulier, y arrivent. Donc c'est pas certain que vous arriviez à vendre votre appartement.
C'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça, et pour quatre raisons principales. La première, c'est que le cœur du sujet, c'est de savoir faire la bonne estimation. Et ça, c'est un vrai métier, c'est un métier d'expert. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut aller toucher une très grande population d'acheteurs et un maximum d'acheteurs. Or, il faut savoir que l'audience qui est offerte par ces sites de particulier à particulier n'est pas du tout la même. Elle est très réduite par rapport à celle auxquelles accèdent les professionnels de l'immobilier.
Bien sûr.
Et puis, troisième raison, très clairement, vous avez besoin d'un tiers de confiance. Il est très difficile de faire en sorte que vendeur comme acheteur se serre la main.
Oui.
Vous avez besoin d'un tiers de confiance pour faire en sorte de faciliter tout
bien
ça.
Bien sûr.
Et puis, je vous donnerai un dernier élément, c'est que c'est extrêmement chronophage de vendre tout seul.
Il faut avoir le temps.
Il faut avoir le temps.
Et la patience.
Et la patience, exactement.
C'est vrai.
Exactement.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci donc Stanislas Diodinchin, CEO et cofondateur de Haussmann Immobilier, néo-agence immobilière, et Antonio Pinto, CEO et cofondateur de Bellman, néo-syndic. Merci d'avoir été là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Allo Radio Immo.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.